Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et puis à 19h15, le Club des idées avec la carte blanche ce soir de Philippe Manière, ancien patron de l'Institut Montaigne. La chute des prix de l'immobilier, ça n'est pas si grave, nous dira-t-il. À 19h20, comment expliquer l'incroyable popularité de la famille royale? 83% d'opinion favorable pour la reine d'Angleterre qui fête d'ailleurs aujourd'hui ses 73 ans de mariage avec le prince Philippe, excusez du peu. Et vous en avez peut-être entendu parler, la série The Crown sur la famille royale fait un carton sur les plateformes américaines. Alors, quelles sont les raisons de cette incroyable longévité au sommet? On en parlera notamment avec Stéphane Bern. Voilà pour le programme. D'abord, l'info avec le journal Isabelle Millet. 19h, vous êtes sur Europe 1.
Et alors que Pfizer et BioNTech, les laboratoires, déposent aujourd'hui une demande d'autorisation pour leur vaccin contre le Covid, les pays commencent à mettre en place les dispositifs nécessaires à une campagne de vaccination massive.
Certains sont plus organisés que d'autres. L'Allemagne est prête à vacciner 20 000 personnes par jour. En France, on commence tout juste à réfléchir à la stratégie.
La disparition aujourd'hui de l'ancien résistant Daniel Cordier, avant-dernier compagnon de la Libération. Il fut l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Un hommage national lui sera rendu.
Le tueur en série Michel Fourniret, hospitalisé en réanimation, un état de santé qui inquiète dans la perspective d'obtenir enfin la vérité dans l'affaire Estelle Mouzin.
L'arrivée de la 5G à Nice, première ville à se lancer en France. Et puis la visite du secrétaire d'État américain dans une colonie israélienne. Cadeau de départ de Trump à Benjamin Netanyahou, nous dira Didier François.
La tendance météo avec Anissa, une grande fraîcheur et beaucoup de soleil demain au programme.
C'est le programme de ce samedi, effectivement, Julien. Après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil s'installe presque partout. Les températures sont en baisse, surtout le matin avec de nombreuses températures négatives. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Du côté des vaccins contre le Covid, les choses donc s'accélèrent, Isabelle.
Et oui, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont officiellement déposé aujourd'hui une demande d'autorisation pour leur vaccin. Ils pourraient obtenir le feu vert d'ici quelques semaines, ce qui veut dire que les premières vaccinations pourraient alors débuter avant la fin de l'année.
Il est donc urgent de mettre en place un plan de vaccination, de s'organiser. Certains ont anticipé, plus que d'autres. On verra dans un instant que la France est un peu à la traîne.
Oui, nos voisins allemands, eux, sont déjà prêts. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Hélène, les centres de vaccination sont même déjà installés.
Oui, ici à Berlin, il y en a 6. Alors au parc des expositions, au vélodrome, dans une salle de concert par exemple, avec à chaque fois 15 cabines de vaccination. Les seringues et les aiguilles ont été commandées, certaines déjà livrées d'ailleurs. Tout est prêt pour pratiquer une injection toutes les 2 minutes à partir de la mi-décembre, si le vaccin est prêt. C'est ça l'objectif, un vaccin toutes les 2 minutes, car Berlin a maintenant un taux d'incidence qui dépasse celui de Paris. Rien que dans la capitale, il y a 400 000 personnes à risque, et en Allemagne en général, c'est 40% de la population, parce qu'il y a beaucoup de seniors ici. Et comme les Allemands sont globalement plutôt mauvais quand il s'agit d'improviser, eh bien ils ont préféré anticiper et ils ont arrêté leur stratégie de vaccination dès le début de ce mois de novembre. L'Académie des sciences, le Comité national d'éthique et une commission parlementaire ont planché ensemble sur la question. Tout est réglé au millimètre pour écarter toute polémique. Et d'ailleurs, 93% des Allemands disent qu'ils sont d'accord avec ce plan de vaccination qui ciblera jusqu'au printemps prochain uniquement les personnes à risque. Les soignants, les forces de l'ordre et les enseignants. Le seul détail qui n'est pas public pour l'instant, ce sont les lieux de stockage du vaccin. 60 hangars répartis sur tout le territoire allemand qui, une fois connus, seront protégés par l'armée.
Merci beaucoup Hélène Kohl, en direct de Berlin. Alors ça, c'est donc l'Allemagne, très organisée, vous nous le disiez Hélène. Et en France, eh bien, est-ce qu'on est prêts, nous aussi? C'est moins évident. On en est simplement, pour l'instant, à évoquer la nomination d'un futur monsieur ou madame vaccin.
Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins généralistes de France, regrette qu'encore une fois notre pays soit à la traîne.
Depuis le début de cette pandémie, la France ne s'est pas illustrée par une préparation à toute épreuve. On a manqué de masques en mars, on a manqué de tests au mois de septembre. On est en train de manquer de vaccins contre la grippe au mois de novembre. Donc, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. J'espère tout simplement qu'on ne s'appuiera pas sur l'administration comme on l'a fait en 2009 avec Roselyne Bachelot. Rappelons qu'en 2008, les médecins généralistes vaccinaient 12 millions de personnes et que quand on a organisé les vaccinodromes de 2009, on a vacciné simplement 6 millions de personnes. Moitié moins. Il faut agir et vite, définir une stratégie, faire en sorte que les pharmaciens soient approvisionnés, que les médecins généralistes soient également approvisionnés et que les infirmières libérales puissent être en capacité de vacciner.
Jean-Paul Lamont, oui, le président de la Fédération des médecins généralistes avec Victor Delande. J'écoutais attentivement ce qu'il était en train de nous dire.
Et c'était intéressant. Nous sommes sur la bonne voie pour rouvrir les petits commerces autour du 1er décembre. C'est ce qu'affirme le Premier ministre alors que les discussions sur le sujet se sont poursuivies aujourd'hui encore à Bercy.
Réouverture qui devrait finalement intervenir le 28 novembre, mais avec la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire très strict.
8 mètres carrés par client, du gel hydroalcoolique à l'entrée, le marquage au sol ou encore l'installation de plexiglas. On intensifie en réalité ce qui se fait déjà actuellement.
Et évidemment, on sera fixé mardi prochain à 20h après la nouvelle intervention d'Emmanuel Macron que l'on suivra en direct ensemble sur Europe 1. Le chef de l'État qui ce soir rend hommage à Daniel Cordier, dont on a appris aujourd'hui la disparition à l'âge de 100 ans. Le résistant, le secrétaire de Jean Moulin, s'en est allé, écrit le président. Quand la France était en péril, lui et ses compagnons prirent tous les risques pour que la France reste la France, dit le président Macron.
Nous leur devons notre liberté et notre honneur. Emmanuel Macron qui annonce qu'un hommage national sera rendu à Daniel Cordier. Donc, il ne reste plus aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale qu'un seul compagnon de la libération, Hubert Germain.
Daniel Cordier, une vie incroyablement riche, marquée par la guerre, bien sûr. Il y a 7 ans, sur Europe 1, il était revenu justement sur l'un des épisodes marquants pour lui, l'arrestation de Jean Moulin, le 21 juin 1943.
Je n'avais qu'une idée, je voulais venir à Lyon et puis monter une équipe et puis le libérer. Il était à Montluc, là, attaquer la prison, enfin vous savez, ce sont des idées, j'allais dire d'enfant, de jeune homme. Mais là, je voulais à tout prix la liberté pour Moulin. Le message de Jean Moulin, c'est la liberté, c'est aussi mon combat, c'est toute ma vie, c'est la liberté, c'était le combat de Jean Moulin.
Daniel Cordier, le 27 mai 2013 sur Europe 1, il était au micro de Jean-Luc Boujon.
Évidemment, les hommages ce soir sont nombreux depuis l'annonce de sa disparition. Tous saluent son engagement précoce,
comme
notamment.
Comme Vladimir Trouplin, il est conservateur du musée de l'Ordre de la Libération aux Invalides à Paris.
Il a fait preuve de cette capacité à placer au-dessus de son propre avenir quelque chose de supérieur. Et ce quelque chose de supérieur, c'était la défense de la patrie, la défense de la nation. Et c'est un militant d'extrême droite. Quand il s'engage en 1940, il a évolué. Il a évolué en se confrontant à d'autres peuples, aux Britanniques, en voyant ce qu'était aussi la politique de collaboration de Vichy. Il a totalement changé. Ce garçon qui avait une admiration a priori totale pour Pétain n'a plus voulu en entendre parler le jour où il a entendu Pétain dire « Je vais demander l'armistice aux Allemands » le 17 juin 1940. Il a rompu immédiatement. Et il est parti à l'aventure, mais vraiment avec cette idée de servir le pays.
Le conservateur du musée de l'Ordre de la Libération à Paris, Vladimir Trouplin, avec Hélène Terzian.
Mais vous savez que le dernier compagnon de la Libération doit être inhumé normalement au Mont Valérien. Ce devrait donc être Hubert Germain, puisque c'est à ce jour, avec la disparition ce soir de ce résistant Daniel Cordier.
Ce sera lui le dernier
compagnon de la Libération. À Vesoul, le procès de Jonathan Daval avec cette confrontation très attendue entre les parents d'Alexia et leur gendre.
La mère de la jeune femme a tenté en vain d'arracher des explications sur son geste. Verdict attendu demain.
Michel Fournier est hospitalisé dans un service de réanimation après un malaise dans sa cellule.
Le tueur en série dont la justice tente de faire ressurgir les souvenirs sur l'endroit où il aurait enterré le corps d'Estelle Mouzin. Son état de santé inquiète, en particulier dans la perspective d'obtenir la vérité justement dans cette affaire, Chloé Triomphe.
Oui, et les plus inquiets, ce sont sans doute les avocats du père d'Estelle Mouzin lorsqu'ils ont appris la nouvelle ce matin. Écoutez le sentiment de maître Didier Seban.
Je dirais que c'est une colère, surtout parce qu'il était déjà très affaibli lors de ses dernières auditions ou déplacements dans les Ardennes. Il était difficile d'obtenir des indications, des précisions de sa part. Donc, effectivement, on se dit pourquoi tout ce temps perdu. Sa mémoire est dans une forme de brume aujourd'hui difficile à transpercer. Maintenant, à la fois les indications qu'il a pu donner au juge et puis les vérifications qui ont été faites depuis corroborent l'idée que des fouilles peuvent être utiles et qu'on peut peut-être avoir l'espoir de retrouver le corps d'Estelle.
Car des nouvelles fouilles, il y en a effectivement prévues début décembre aux abords de l'une des anciennes propriétés de Michel Fourniret, car lors de sa dernière sortie, justement pour des fouilles sur place encadrées par la juge d'instruction et par les gendarmes, il avait en toute fin de journée donné de nouvelles indications prometteuses. En tout cas, la justice veut tout faire pour tenter d'aller au bout de cette affaire.
Chloé Triomphe du service police et justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et la suite de votre journal à 19h10 avec Isabelle Millet. Si vous habitez du côté de Nice, que vous possédez un smartphone compatible et un forfait SFR, ça fait beaucoup de si, vous verrez peut-être apparaître un petit logo 5G en haut à droite de votre appareil.
Oui, car Nice devient la première ville française à l'heure de la 5G. Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant sur place.
Et en tout, ce sont 140 antennes relais 5G qui ont été installées, ce qui permet de couvrir 50% de la ville. Mais pour accéder à cette technologie, il faut être équipé d'un smartphone compatible et surtout attendre mardi le lancement de l'abonnement chez SFR. Convaincu de l'intérêt de la 5G pour le développement de Nice, son maire Christian Estrosi ambitionne de faire de sa ville un modèle dans ce domaine.
Ça va permettre un développement énorme des usages familiaux, du commerce en matière de transition écologique, de transport, de santé, de sécurité. Ne serait-ce que pour poser une caméra en 5 minutes, si ici ou là il y a une alerte, on n'aura pas besoin d'être relié à la fibre optique. Avec la 5G, elle sera immédiatement opérationnelle.
Nice veut aussi attirer sur son territoire de nouvelles entreprises françaises et étrangères, et la 5G est un argument, mais vous allez l'entendre, tout le monde n'a pas le même avis. Baptiste et Charlotte sont deux collègues de travail.
Potentiellement, c'est une bonne nouvelle. Ça va pouvoir dynamiser des entreprises et l'implantation de nouveaux secteurs économiques.
Le progrès, c'est ce qu'il faut pour notre société. Après, à quel prix? Pour tout ce qui est santé, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment très très bon.
Et d'ici la fin de l'année, 70% de la ville de Nice devrait être couverte par la 5G.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice.
Dans l'actualité également, une tournée d'adieu qui ne passe pas inaperçue. Celle du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo.
Et on en parle ce soir avec, bien sûr, notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Un secrétaire d'État américain qui visite une colonie israélienne considérée comme illégale par le monde entier, c'est du jamais vu.
Oui, c'est d'ailleurs difficile pour Donald Trump de faire un plus beau cadeau de départ à Benjamin Netanyahou que cette double visite de son secrétaire d'État, puisque Mike Pompeo s'est effectivement rendu d'abord dans une colonie de Cisjordanie, en territoire palestinien occupé, mais également il a visité le plateau du Golan, province syrienne, hautement stratégique, annexée par Israël après la guerre des six jours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de territoire occupé, qui dans les résolutions des Nations Unies désigne ces espaces perdus par les forces arabes coalisées lors de leur défaite de 1967 et dans lesquels Israël maintient une présence militaire, installe ou laisse s'installer des implantations juives de peuplement qui sont d'ailleurs au cœur du bras de fer diplomatico-politique du conflit israélo-arabe. Les Palestiniens dénonçant une colonisation de leur terre qui finira par leur ôter tout espoir de créer un jour un État viable. Et puis les Israéliens, particulièrement le Premier ministre Benjamin Netanyahou, plaident eux pour une évolution du droit international qui reconnaisse un statut légal à ces implantations. Et c'est exactement ce que vient de leur offrir Donald Trump, même si c'est de façon purement symbolique.
Les positions semblent pourtant évoluer, y compris dans le monde arabe.
Alors oui, même chez les Palestiniens, qui d'abord sont prêts maintenant à des échanges de territoire, et puis surtout, il est quand même assez frappant de noter qu'au moment même où Mike Pompeo visitait ces colonies, les négociateurs palestiniens reprenaient les pourparlers sécuritaires avec les Israéliens, alors que ces discussions avaient justement été suspendues en juin dernier pour protester contre les menaces d'annexion de la vallée du Jourdain par Benjamin Netanyahou. Alors il faut dire que le soutien indéfectible de Donald Trump à Israël a profondément changé les rapports de force dans la région, avec des signatures d'accords de paix directs entre plusieurs pays arabes et Israël, ce qui laisse à l'autorité palestinienne une marge de manœuvre extrêmement réduite.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. Et merci à vous Isabelle, on vous retrouve lundi. Bon week-end. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Avec Anissa qui nous a rejoint en studio, il va faire frais demain matin.
Oui, froid même, hein, que moins 4 degrés à Rodez, moins 4 degrés aussi dans le Massif central, moins 3 en Lorraine, moins 2 degrés dans le centre, moins 1 degré à Clermont-Ferrand et Manosque. Nous aurons jusqu'à 11 degrés demain matin et c'est à Cherbourg qu'il fera le plus doux sous les nuages. 7 à 16 degrés demain après-midi, 7 à Strasbourg, 12 à Paris, 16 à Nice, vous l'avez compris, ça baisse du côté du thermomètre. Dans le ciel, en revanche, c'est plutôt agréable. Le soleil brille sur quasiment toute la France, sauf
ça, c'est pas mal,
en Normandie. Et attention, en Corse, nous avons toujours un petit peu de vent demain sur les caps.
Bien, prudence. Merci Anissa, bon week-end.
Merci.
Également à vous. Dans quelques secondes, on parle de la famille royale. Pourquoi est-elle toujours aussi populaire? La famille royale avec la Queen Elizabeth qui fête aujourd'hui avec son mari, le prince Philippe, ses 73 ans de mariage. On en parlera dans quelques secondes avec notamment Stéphane Bern. D'abord, 19h15, la carte blanche du Club des Idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec ce soir à mes côtés l'entrepreneur, ancien directeur général notamment de l'Institut Montaigne, Philippe Manière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, mon cher Philippe, vous nous parlez immobilier. Les prix sont peut-être en train de se retourner dans l'immobilier, mais vous, ça ne vous fait pas peur?
Oui, alors les signes de retournement commencent à s'accumuler. Hein. Ça se voit assez clairement à Paris. Paris qui est bien sûr un marché à part, mais un marché qui donne le là. Surtout, il y a aussi des indices du même mouvement ici et là en région. Alors on pourrait donc bientôt voir le prix du mètre carré entamer un repli général. Et si ça se confirme, alors ce serait la fin d'un cycle de hausse quasi ininterrompu de presque un quart de siècle qui a vu le prix de la pierre tout de même plus que doubler. Oui. On parle donc ici d'un véritable événement. Et oui, vous m'avez bien compris, Julien, ce serait à mon avis plutôt un événement heureux.
Mais pourquoi, quand le marché de l'immobilier s'effondre, ça n'est jamais bon pour l'économie?
En fait, la hausse du prix du mètre carré est souvent décrite comme une bonne nouvelle, en particulier évidemment par les professionnels qui en vivent. Mais je pense, moi, au contraire, que c'est l'une des causes majeures de la frustration générale de notre pays. Vous savez, Julien, que l'inflation a officiellement disparu. L'indice des prix se balade entre 0 et 1% par an. Et donc, si on s'en tient à ces chiffres, eh bien, notre pouvoir d'achat est préservé, tout va bien. Mais la vérité, c'est que cet indicateur sous-estime complètement le poids énorme du logement dans notre budget, un poste qui représente couramment jusqu'à un tiers de nos dépenses. Or, pour les accédants à la propriété, le boom de l'immobilier, eh bien, ça s'est traduit par une forte hausse des mensualités à surface égale, c'est-à-dire en fait concrètement par une baisse de la surface qu'on peut acheter à budget constant.
Oui.
Et puis pour les locataires, eh bien, ça signifie une hausse des loyers. Eh bien oui, quand les prix grimpent, les loyers suivent. Alors sauf là encore à se rabattre sur un bien moins grand ou plus éloigné de son lieu de travail. Vous voyez, quand je parle de frustration, ben, ça n'est pas par hasard.
Oui, mais en même temps, Philippe, la hausse de la pierre, c'est un facteur d'enrichissement.
Alors ça, c'est sûr, mais enrichissement pour qui? Pas pour les locataires, je viens de le dire. Quant au marché de la vente, ben, on oublie souvent que la hausse profite d'abord à ceux qui n'en ont pas besoin. Si on raisonne en cycle de vie, statistiquement, les vendeurs sont plus âgés et plus riches que la moyenne, tandis que les acheteurs, eux, ben, ils sont en moyenne des ménages jeunes et qui n'ont pas de patrimoine. Autrement dit, la hausse de l'immobilier, c'est de la redistribution à l'envers qui tend à accroître les inégalités. Il faut imaginer une sorte de Robin des Bois déjanté hein, qui prendrait aux pauvres pour donner aux riches, pardon, mais je ne suis pas sûr qu'il soit urgent d'applaudir. Alors un dernier point qu'on ne mentionne jamais, si vous êtes propriétaire occupant, bah, le mouvement des prix de votre bien n'a en fait aucune importance, car de toute façon, si vous voulez acheter plus grand ou plus petit plus tard, eh bien, le prix de votre futur bien baissera au même rythme que celui que vous avez aujourd'hui, si bien que le changement ne sera ni plus ni moins douloureux. Donc croyez-moi, Julien, c'est un peu contre-intuitif, mais si les prix de l'immobilier se mettaient enfin à baisser, bah, ça ferait bien plus d'heureux que de malheureux, surtout dans le contexte de crise et de budget contraint qu'on connaît aujourd'hui.
C'était la carte blanche du vendredi, signée ce soir Philippe Manière. Merci mon cher Philippe.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le Club des Idées à 19h21, la couronne britannique en débat jusqu'à 20h. Pourquoi la famille royale nous fascine-t-elle autant, malgré les scandales, malgré les turpitudes de l'histoire? Force est de constater que la reine Elisabeth et son clan sont presque devenus branchés. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire de mariage de la reine et du prince Philippe. 73 ans de mariage, excusez du peu. Et ils sont plus populaires que jamais, portés notamment par le succès de la série The Crown, dont la saison 4 est arrivée en ce moment sur Netflix et qui fait un carton. Alors comment expliquer un tel succès? On en parle ce soir avec Aurélie Raya. Bonsoir, vous êtes reporter à Paris Match, spécialiste de la famille royale britannique, alors qu'on entend retentir God Save the Queen. On en parle également avec Stéphane Bern. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous, bonsoir.
Merci d'être avec nous. On en parle également avec Stéphane Clark, journaliste et écrivain britannique, auteur de Elisabeth II ou L'humour souverain. C'est aux éditions Albin Michel, sorti en 2018. D'abord Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la famille royale est devenue ou redevenue branchée d'une certaine manière, ou en tout cas plus populaire que jamais?
Bah, c'est-à-dire qu'elle, alors que toutes les institutions en Grande-Bretagne sont menacées, l'Empire, vous avez vu qu'il y a, avec le Brexit, il y a la menace d'éclatement avec l'Irlande et avec l'Écosse.
Oui.
La seule institution qui tienne encore le coup, c'est la monarchie. Et c'est vrai que le vrai chef-d'œuvre, disait Metternich, c'est de durer. Et quand, comme la reine d'Angleterre, vous avez bientôt 95 ans, 68 ans de règne, 73 ans de mariage, c'est des noces de fonte, là c'est difficilement, ça bouge plus, vous voyez, c'est vraiment jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc il y a quelque chose de l'ordre du mythe qui fait que oui, ils deviennent presque branchés. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des films, The Queen, il y a eu, et puis maintenant The Crown, même si on distord un peu la vérité.
Bah, je savais que vous alliez me dire ça.
Oui, oui, parce que voilà, la reine est tout sauf une femme distante, telle que Olivier Colman le montre dans la série. Mais tout ça est très intéressant, ça participe même à la légende. Plus c'est négatif, plus ça entretient. Regardez, avec un épisode, là, le prince William est monté au créneau en disant qu'il n'appréciait pas la manière dont on présentait son père et sa mère. Vous voyez, tout cela remet une pièce dans la machine et ça relance l'intérêt du public britannique pour sa famille royale, alors que franchement, Boris Johnson ne fascine beaucoup moins les foules là, aujourd'hui.
Oui. Alors justement, on parlait du prince Charles Aurélie Raya. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire aujourd'hui que c'est un peu la revanche aussi du prince Charles? On ne parle plus trop de Kate Middleton, de Meghan Markle, mais de Charles, 72 ans, qui incarnerait, nous dit-on, les valeurs de l'époque. Il y avait un papier hier dans le Figaro disant que c'était lui maintenant le style conservateur, mais presque branché, parce que du coup conservateur et à contre-courant de la famille royale.
Ah oui, non, c'est sûr qu'à 72 ans, à l'âge de la retraite, il va peut-être prendre enfin un travail bientôt. Vaut mieux que ça marche pour lui.
Non, mais il incarne aussi les valeurs de la société moderne, le recyclage, l'anti-gaspillage.
Oui, il a vu ça bien avant tout le monde. Dans les années 70, il pensait déjà qu'il fallait s'occuper d'environnement, qu'il fallait faire attention à ce qu'on mangeait. Il avait fait une ferme bio.
À l'époque.
Il était assez moqué. Je crois qu'on se fichait un peu de lui. Il fallait bien qu'il s'occupe aussi, parce que l'attente est longue.
Il parlait aux arbres.
Oui,
il
exactement.
Était juste avant, en avance, parce que il était écologiste avant même que les gens connaissent ce mot.
C'est d'ailleurs un paradoxe à l'heure des réseaux sociaux. Plus, c'est lui qui, avec ses costumes croisés, qui est considéré comme une icône du style. Alors, vous savez ce qu'il dit quand on lui pose la question? Il dit « Je me vois comme une horloge cassée à l'heure tous les 25 ans ». Le trait d'humour « so British ». Quel est le rôle aujourd'hui, Stéphane Clark, quel est le rôle aujourd'hui de la famille royale dans la politique britannique?
Dans la politique? Ah oui. Il faut dire qu'ils étaient connus avant « The Crown ».
C'est pas très intéressant.
Et leur rôle a toujours un peu été le même, mais c'est encore plus fort maintenant, je dirais. Ça rappelle un peu aux politiciens, même si on n'est pas un monarchiste, il faut accepter que ça rappelle aux politiciens britanniques qu'ils sont là seulement pour quelques petites années, et c'est pas les gens les plus importants du pays. C'est pas toujours vrai dans d'autres pays que je ne citerai pas, mais Et donc, les politiciens britanniques, ils savent que, d'accord, je suis Premier ministre, par exemple, mais il y a quelqu'un au-dessus de moi. Donc, il faut quand même que je fasse un peu attention. Et quand Boris Johnson était accusé il y a un an ou plus d'avoir menti à la reine sur des choses qu'il allait faire, ça a créé un scandale et ça l'a un peu freiné dans ce qu'il voulait faire. Donc, même si la reine n'a pas du tout le droit d'émettre des opinions,
non, mais elle a le pouvoir de freiner les choses.
Elle peut freiner et elle peut montrer des choses. Que lors du dernier référendum sur l'indépendance de l'Écosse, elle a juste dit un truc du genre « J'espère que les gens vont avoir la raison, vont être raisonnables.
Oui. »
Et on dit que ça a baissé les votes pour l'indépendance.
Ça a pas marché sur le chapeau bleu au moment du Brexit.
Non, mais c'était trop tard.
C'était trop tard.
Le chapeau bleu...
C'est vrai que c'est arrivé après le vote.
Non, mais c'était une sorte de blague, un commentaire. Après le coup, parce qu'elle devait lire un discours... Parce qu'on lui écrit ses discours, le gouvernement lui écrit ses discours. Elle devait, pour ouvrir le Parlement, lire un discours qui annonçait le Brexit. Et pour cela, elle a mis un chapeau bleu avec des fleurs jaunes qui ressemblaient exactement
La bieuse de la reine a dit que ce n'était pas fait exprès.
Exactement, ils peuvent dire ça, elle est obligée de dire ça.
Mais alors vous avez raison.
Pour rebondir sur ce que dit Stéphane,
Stéphane,
très intéressant, pardon, c'est un magistère moral. C'est-à-dire que c'est l'incarnation vivante de la nation. C'est la mère de tous les Britanniques, en quelque sorte.
La grand-mère,
oui, c'est vrai, 95 ans. Mais en même temps, c'est peut-être une illusion. C'est-à-dire que ça laisse penser aux Britanniques que quoi qu'il arrive, l'Angleterre sera toujours l'Angleterre parce qu'elle est là. Et peut-être c'est une illusion parce qu'en même temps, peut-être qu'il y a des erreurs politiques qui sont commises, mais le fait que la monarchie incarne cette pérennité, cette continuité, ce côté immuable et stable, ça induit en erreur en quelque sorte. Les gens, ils pensent toujours que l'Empire est là, alors malheureusement, je crois que même le Commonwealth est en train de se déliter.
Bon, et on va revenir un peu en arrière. arrière sur l'histoire de cette famille royale. Dans quelques secondes, on marque une pause. 19h27, vous restez avec nous. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, la suite du débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la couronne britannique. En débat jusqu'à 20h, pourquoi la famille royale nous fascine-t-elle autant? Elle est au summum de sa popularité en ce jour où on célèbre les 73 ans du mariage d'Elisabeth II avec le prince Philippe. C'était le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster, à Londres.
Sous le ciel de brume, qui est le ciel de Londres, la princesse Elisabeth, dont chaque Anglais connaît tout, depuis ses mots d'enfant jusqu'à son roman d'amour, épouse le lieutenant de la Royal Navy, Philip Mountbatten, ex-prince de Grèce, et créée depuis hier, duc d'Édimbourg. C'est entre deux haies formées par les plus grands noms du royaume, suivie d'une cour où l'on reconnaissait cinq rois, cinq reines et six princes et princesses royaux et les représentants de 40 nations que les nouveaux mariés unis devant Dieu et devant la loi ont traversé l'abbaye historique.
Voilà, et ce qui est fascinant, 64 ans plus tard, c'est son petit-fils William qui va épouser Kate Middleton le 29 avril 2011 devant une foule immense.
Londres est réveillé depuis longtemps.
Ah, c'est super, c'est génial. Tout le monde est heureux, il y a des gens déguisés de partout, avec des choses très très rigolos. Donc c'est super, ça vaut vraiment un déplacement.
Sur la BBC, les commentatrices découvrent enfin la robe de la mariée.
Quelle beauté! C'est une merveille. Et elle est faite de satin, ivoire et blanc.
Le public converge devant les grilles. Devant Buckingham, comme sur la BBC, on n'attend qu'une chose. Et là, sur le balcon, la porte s'ouvre.
La foule se fait entendre et voilà sa récompense. Et un deuxième baiser qui ravit la foule.
Voilà, les mariages royaux, vous l'avez compris, sont des événements mondiaux. Celui d'Harry et Meghan avait été suivi, tenez-vous bien, par 1,9 milliard de téléspectateurs. À titre de comparaison, la finale de la Coupe du Monde en 2018 a été regardée par 1,12 milliard de téléspectateurs. Donc moins que le mariage de Harry et Meghan. Stéphane Bern, comment vous expliquez qu'en 64 ans, l'appétence pour ces mariages royaux de la famille britannique reste intacte?
Ce qui est assez fort dans la monarchie britannique, c'est qu'elle arrive à se réinventer en permanence. C'est-à-dire qu'elle crée l'événement. C'est une famille dont donc il y a un phénomène d'identification de toutes les familles du royaume à cette famille qui a été placée par l'histoire sur un piédestal, qui n'est pas plus extraordinaire qu'une autre, qui est même tout à fait ordinaire quand on y regarde de très près, mais qui a été placée dans une situation extraordinaire. Et donc il y a ce phénomène d'identification à travers, ils nous tendent une sorte de miroir aristocratique, oui, dans lequel on se voit. Donc c'est les joies et les peines de chaque famille se vivent à travers les joies et les peines de la famille royale, les mariages, les naissances, les baptêmes, etc. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai assisté au mariage de William et Kate, et la folie qu'il y avait dans les rues de Londres faisait presque, on se disait, mais c'est ce même peuple qui en même temps demandait à la reine de se réformer, de, vous voyez, c'est-à-dire que à chaque génération on renouvelle ce pacte d'amour entre la couronne et le peuple britannique. Oui, c'est assez fascinant.
On en parlera tout à l'heure au moment de la mort de Diana. C'est vrai qu'il y a eu un sentiment anti-monarchie. Je crois qu'il y avait 53% des Britanniques qui souhaitaient que la reine abdique ou se réforme. On en parlera avec vous, Stéphane Bern, tout à l'heure. Peut-être une réaction, Aurélie Raya, sur cette popularité incroyable de la famille royale qui réussit à se réinventer, alors que la monarchie espagnole est décriée par une partie des Espagnols, alors que la monarchie belge n'a pas autant de valeur aux yeux des Belges. Pour les Britanniques, ça ne change pas.
C'est comme un soap opéra un peu aussi. Ils s'identifient, regardent, c'est incroyable. C'est comme une série qu'ils voient en direct. Et puis les histoires d'amour font toujours rêver les gens, les grands mariages. Enfin, c'est assez.
Oui, c'est des histoires de luxe aussi.
C'est un tel
luxe que même ça dépasse la jalousie beaucoup. Et il faut dire, moi, je trouve que ce que nous avons comme chance, nous, les Britanniques de nos jours, c'est qu'on a quelque chose qui est un peu comme la Coupe du Monde, comme vous avez dit. Ça veut dire, c'est un grand événement heureux qui attire l'attention de tout le monde. Parce que sinon, les médias de tout le monde, du monde entier, ils se déplacent pour les catastrophes. Ouais. Mais là, ils se déplacent pour un événement qui est heureux. Et ça, c'est assez rare dans le...
Stéphane Clark.
Et surtout, ça fédère les gens.
Ça fédère les gens.
Dans tous ces pays que vous décrivez, il n'y a plus de figures emblématiques qui symbolisent la nation, du grec symbolé qui rassemble.
Parce qu'ils ont commis pas mal d'erreurs, c'est vrai. J'ai une question à vous poser, Stéphane Clark, sur le rôle de la famille royale. On commençait par là tout à l'heure. Alors, officiellement, elle n'a pas de rôle politique, elle n'intervient pas dans la marche du pays, ni dans la diplomatie. Mais il y a un élément dans la série et dans cette quatrième saison que les Français découvrent peut-être s'ils sont friands des séries, The Crown. C'est la manière dont elle s'entretient avec ses premiers ministres. Elle a connu 14 premiers ministres, la Queen Elizabeth, et notamment avec Margaret Thatcher. Il y a une séquence dans la saison 4 où le pays est à terre, le chômage est endémique, le pays ne va pas bien du tout, et elle fait la morale à Margaret Thatcher. Est-ce que ça se passe comme ça dans les faits ?
Attention, parce que il faut dire, cette série est critiquée pour avoir fait des erreurs historiques, mais c'est une série, c'est une fiction.
Bien sûr.
Alors normalement, les premiers ministres ne parlent jamais de leurs entretiens. Ce sont des secrets. Donc, on peut supposer des choses.
Oui.
Il y a peut-être des fuites. Il y a Margaret Thatcher qui a dit des choses à ses amis qui ont dit... mais c'est une fiction.
Bien sûr. Mais donc, est-ce que dans les coulisses de ces entretiens, on peut imaginer que la reine Elisabeth donne des indications ou est une forme de... le discours qui va dans un sens ou dans l'autre.
Justement, on peut soupçonner que la reine, ayant une vision de l'histoire plus longue que les politiciens, quand par exemple Margaret Thatcher provoque l'énorme grève des mineurs qui a duré un an et qui a fait faire faillite tout le nord de l'Angleterre, la reine exprimait sûrement des soucis sur le chômage dans le nord de l'Angleterre et tout ça, et lui demandait sans doute, mais est-ce que c'est bien pour le pays et le peuple à long terme de faire ce que vous faites. C'était une sorte d'idéologie de Margaret Thatcher, de vendre tout le service public et tout ça. La reine a sûrement émis des soucis, mais je ne sais pas si elle peut aller plus loin.
Ouais.
Et s'il y a des entretiens qui sont montrés dans The Crown, ce sont des fictions,
bien sûr,
de l'imagination.
Tous les dialogues sont inventés.
Bien sûr, tous les dialogues
sont
inventés.
Mais sur l'apartheid aussi, elle avait été
mais
un peu...
Mais on se pose la question quand on voit ces échanges auraient derrière.
Sur Margaret Thatcher, sur l'apartheid, je crois qu'elle lui avait fait des remarques.
Je ne sais pas, oui.
C'est ce qu'on écrit. Après, elle avait appelé Margaret Thatcher pour s'excuser en disant que c'était faux, ce qui était paru dans les journaux.
Hein.
Mais en tout cas, il y avait eu des fuites quand même là-dessus.
Stéphane Bern, on connaît ces affinités entre Winston Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron, Theresa May, aujourd'hui Boris Johnson.
Oh, elle a adoré Winston Churchill. C'est lui qui l'a formée.
Oui.
Et d'ailleurs, elle était une jeune reine, elle avait 25 ans, elle monte sur le trône et Sir Winston Churchill était flatté. D'ailleurs, il était une sorte de Pygmalion. Mais comme il oubliait, il ne faut pas oublier que la reine Elisabeth est la femme la mieux informée du monde depuis 1952. Et donc, elle le prenait au piège, elle essayait de le piéger de temps en temps en lui demandant « Vous avez lu le télégramme de Bagdad ?» Et alors, il ne l'avait pas lu, évidemment. Parce que, vous comprenez, elle fait ses boîtes. Ses boîtes, c'est les boxes. Elle a des boîtes à son chiffre qui arrivent tous les jours avec toutes les dépêches diplomatiques, toutes les actes, toutes les lois, toutes les nominations. Et elle étudie tout. C'est vraiment une bosseuse. Et donc, elle prenait ses premiers ministres un peu au piège. Mais je crois mais c'est évidemment une légende, qu'elle a le cœur un peu plutôt travailliste plutôt que conservateur. Maintenant, personne n'en sait rien, encore une fois. L'histoire de l'apartheid, c'est vrai qu'elle n'a pas du tout... Elle était favorable, dit-on, encore une fois, c'est une rumeur, au fait que l'on marque une distanciation et qu'il y ait des sanctions contre l'Afrique du Sud qui pratiquait l'apartheid. Mais encore une fois, on n'a jamais aucune trace d'un dialogue. D'après la série The Crown, ils disent que c'est le secrétaire privé de la reine qui a fait des fuites. Or, il nomme un secrétaire privé qui n'était plus déjà au travail à Buckingham depuis 6 mois. Donc tout cela est cousu de fil blanc, mais en même temps, on sent que la reine, elle peut encourager, mettre en garde et donc elle utilise elle utilise, comme dit Aurélie, ses prérogatives royales pour dire ce qu'elle pense et avec cette vision à long terme que les premiers ministres n'ont pas. Vous savez, les premiers ministres, ils veulent surtout gagner l'élection qui vient. La reine, elle est là pour toujours puisqu'elle n'abdiquera jamais, elle mourra sur le trône.
Mais après, je crois qu'elle avait beaucoup aimé Harold Wilson.
Oui.
Et pas trop Tony Blair à la fin, non ?
Non, et surtout, elle cassait l'arrogance de Margaret Thatcher au début, en dehors de ces réunions. Parce qu'une fois, Margaret Thatcher a mis une robe qui était de la même couleur que la reine,
très drôle,
ce qui est étonnante. Et Margaret Thatcher aurait dit à la reine, Ah bah, il faudrait peut-être qu'on se consulte à l'avenir. Et là, Anne a dit, mais moi, je ne consulte avec personne.
Elle a dit plus drôle, Stéphane. Elle a dit, je ne regarde jamais ce que portent les autres dames.
Voilà, c'est une façon de lui dire, c'est à vous de vous adapter,
alors,
pas à moi.
La reine, les amis, a aussi dû gérer sa famille, ce qui n'a pas été une mince affaire. Hein. Cela aurait pu l'éloigner d'ailleurs des Britanniques. Son fils Edward, qui a été récemment éclaboussé par l'affaire Jeff Epstein.
C'est Andrew, le duc d'York.
À qui elle a interdit de représenter la couronne. Harry et Meghan, qui sont sortis du cercle familial avec perte et fracas d'une certaine manière. Et puis évidemment, la mort de Diana, c'était le 31 août 1997 à Paris. On s'en souvient.
Un flash spécial, Emmanuel Faux.
Avec à l'instant cette information qui nous est donnée par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, suite de l'accident dont ont été victimes cette nuit Lady Diana et le prince Dodi Al-Fayed, la princesse de Galles est morte. Donc l'information est officielle depuis quelques secondes. La princesse Diana a succombé à cet accident, elle est décédée.
Voilà, 31 août 97, on s'en souvient tous évidemment, le choc, la stupeur partout dans le monde et en Grande-Bretagne. Et là, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Elisabeth refuse de rentrer à Buckingham Palace. Tous les drapeaux de toutes les institutions sont mis en berne, sauf celui de Buckingham. Sa popularité descend alors au plus bas. Et je le disais tout à l'heure, Stéphane Bern, 53% des Britanniques veulent alors la voir abdiquer.
Mais en fait, on sait aujourd'hui que... en réalité, c'est un malentendu. La reine incarne la nation. Même quand il y a un événement grave, la nation ne peut pas disparaître, ne peut pas se dissoudre, ne peut pas pleurer en quelque sorte. D'abord, la reine protégeait ses petits-fils en Écosse. Donc, elle était avec eux. En plus, il y a des choses incroyables. On a accusé le prince Charles de tous les crimes de la terre. Enfin, quand même, Diana meurt avec son amant Dodi Al-Fayed à Paris et c'est le prince Charles qui va chercher le corps. Enfin, c'est surréaliste. C'est vrai que dans un soap opéra, on n'oserait pas écrire un scénario pareil. La reine elle a décidé, depuis lors, évidemment, elle a dit d'ailleurs, c'est l'une des rares fois où elle s'est adressée à la population britannique le soir, la veille des funérailles, elle a dit, nous devons tirer les leçons de la mort de Diana.
Oui, mais Stéphane, vous ne voyez pas qu'elle a mis un peu de temps à réagir ?
Elle a mis un peu de temps à réagir, mais elle l'a
qu'elle
fait
était pas en
pour
phase
protéger. Elle n'était pas en phase avec la nation, mais je crois qu'elle voulait garder son rythme. C'est-à-dire, elle voulait être maître du temps. Et c'est vrai qu'on voit dans le film de Queen... Ouais. Que justement, Tony Blair pressait parce que lui, il est dans un autre temps, un autre tempo en quelque sorte, qui est celui de la vie politique. La reine, un autre tempo qui est celui de la longueur, la continuité.
Les tabloïds poussaient beaucoup contre elle à ce
et
moment-là.
Elle ne veut pas céder aux tabloïds qui disent « Madame, rentrez ».
Elle agit trop vite à l'actualité, c'était pas son truc, non ?
Oui, exactement.
Oui. Oui, en tout cas, ça a...
Oui, ça a créé un fossé. Ça a créé un fossé, mais vous avez vu comment ils ont rebondi. C'est en ça que c'est incroyable. Ouais. C'est qu'ensuite, évidemment, il y a eu les... Philippe Sollers parle des princes de la mer morte, en parlant de Harry et de William, surtout. Mais on a vu comment l'affection qui se portait sur Diana, qui était prête d'ailleurs presque un peu hystérique, je l'ai vécu, parce que pour avoir rencontré plusieurs fois la princesse de Galles et avoir suivi sa vie, c'était mes grandes années où je suivais la vie de la famille royale. C'est vrai que les gens me disaient, mais c'est comme ma fille, comme ma sœur, comme ma mère. Mais c'était incroyable. Alors qu'ils ne fréquentent pas les propres membres de leur famille, ils projetaient leur vie sur Diana. Et en fait, les Britanniques se sont reportés ensuite sur William et Kate.
Mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ce malentendu avec la reine d'Angleterre, Stéphane Bern. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre a paru éloignée, un peu froide, alors qu'il y avait une ferveur et que Diana était devenue un symbole pour toutes les jeunes filles britanniques, une sorte de conte de fées. Et d'ailleurs, avant son décès, il y a un autre événement qui a provoqué un séisme à Buckingham Palace. C'est lorsque Diana fait cette fameuse interview, on va vous en passer un extrait, où elle raconte toute la vérité, ou en tout cas sa vérité, sur son couple avec le prince Charles.
D'après le rédacteur en chef du Sun, une enveloppe anonyme est arrivée un beau matin sur son bureau. À l'intérieur, l'enregistrement d'une longue conversation nocturne entre un homme et une femme. Pendant une demi-heure, ils parlent de tout et de rien. Le dialogue est ponctué de baisers échangés à distance. « Mon mari fait de ma vie une véritable torture », explique la femme. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », lui répond son confident. La cassette aurait dormi pendant 2 ans dans les coffres du Sun, mais aujourd'hui le quotidien britannique est convaincu d'avoir percé le secret. La mystérieuse femme amoureuse serait la princesse Diana, en vacances au château de Sandrigham à la fin de l'année 89.
Oui, et une fois séparés en 92, il y a une interview qui va provoquer une crise inédite, celle que Diana donna à la BBC en 95, je crois.
Dans l'émission Panorama, oui.
Où elle dit tout. Elle parle de sa dépression, elle parle des tensions de son mariage et de son infidélité à elle, mais aussi à lui, parce que c'est vrai qu'ils ont vécu...
Elle remet en cause Charles.
Elle remet en cause Charles.
Charles ne pourra pas être...
Il y a trois personnes absolument. Dans son mariage.
Là aussi, ça a été un séisme quand même pour la couronne, Stéphane.
Oui, ça devenait sordide, en fait. C'était ça le problème. La pauvre Diana, elle en est morte et ça a terminé là, mais ça devenait très sordide. Toutes ces histoires de divorce, d'amant, de Diana et de maîtresse de Charles. Et en fait, c'est ça qui a changé après la mort de Diana. La reine a compris. En fait, les gens se sont un peu trompés, comme l'a dit Stéphane. La reine était distante dans le temps et genre socialement, et les gens ont pris ça pour la froideur, mais elle n'était pas froide, elle était juste distante, et il fallait qu'elle rattrape le temps et qu'elle rattrape l'esprit des gens. Et après la mort de Diana, c'est devenu moins sordide, et la reine surtout a compris qu'il fallait il fallait écouter un peu l'opinion publique, il fallait rester un peu plus proche des gens. Ouais. Et donc elle a changé l'image de la famille royale pour être plus proche. Et c'est ce qu'elle fait maintenant, effectivement, en éloignant Andrew après ces scandales avec Epstein.
Elle a mis du
Epstein.
Temps à éloigner Andrew.
Oui, beaucoup de temps, mais ça évolue. Et maintenant, elle a même éloigné un peu Harry et Meghan parce qu'ils sont partis. Oui. Et donc, elle reste avec le noyau de la famille pour dire, oui, c'est une petite famille maintenant très proche avec Charles et William. On ne dépense pas des fortunes pour des membres un peu externes de la famille. Et donc, elle a évolué la famille royale vers un truc...
On ne va pas se mentir, il y a eu beaucoup de com' autour de la reine d'Angleterre.
Oui,
on l'a vu apparaître dans des clips, aux côtés de Daniel Craig, en jouant
Les Jeux Olympiques, vous avez raison, les Jeux Olympiques 2012, ah oui, mais 2012. Avec les corps.
Elle comprend très bien
formidable.
Les relations publiques. Hein.
Elle
a rebranding, on dit.
Elle a su prendre le virage de la modernité, et à chaque fois, c'est quand même elle qui relance la famille royale. C'est ça qui est formidable.
Pour une raison simple, c'est que penser qu'elle a accompagné le cinéma parlant, et qu'elle est la première à avoir eu des gants pour envoyer des tweets et envoyer des SMS sur un téléphone portable ou sur une tablette numérique. Cette femme aura accompagné en plus de 90 ans tous les changements de ce siècle. Et c'est assez rassurant quand vous êtes un citoyen britannique de vous dire que celle qui est sur vos billets de banque, sur vos pièces de monnaie, sur vos timbres, est une femme qui vous accompagne. Vous savez, le prince Charles disait un jour, on prie pour, quand il sortait d'une messe, il disait, enfin d'un office religieux dans l'église anglicane, il dit, c'est pas un père éternel, c'est une mère éternelle que je devrais prier. Elle est là depuis toujours.
Donc lui, il attend le job depuis très longtemps.
Voilà,
à 75 ans peut-être. Hein,
et Aurélie a raison, à l'âge où les gens prennent leur retraite, lui n'a toujours pas commencé à travailler.
C'est quand même
mais il a fait beaucoup, il a fait beaucoup. Les gens redécouvrent le rôle de Charles, notamment toutes les notes qu'il envoie régulièrement aux ministres pour promouvoir l'histoire des forêts humides, par exemple. Ça a été celui qui, par exemple, contre Jair Bolsonaro, mais même avant cela, a défendu les forêts humides d'Amazonie et s'est battu. Il a créé, par exemple, le Prince Trust et Business in Community, qui sont des fondations charitables. Il a créé plus d'emplois que Margaret Thatcher n'en a créé durant son règne.
Bon, et Stéphane, on fera une grande spéciale sur Europe 1 et sur France 2, évidemment, pour
si
en parler.
Hein,
le jour,
je suis intarissable sur le sujet.
Le jour du couronnement du prince Charles, si ça arrive un jour.
Ça arrive un jour. Ça peut ne pas arriver.
Ça peut ne pas arriver.
Il peut mourir avant sa mère.
Hein. Parlez pas de malheur, mon cher Stéphane. Merci en tout cas, Stéphane, d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment demain avec Mathieu Noël à partir de 16h dans l'Historiquement. Vote. Merci Aurélie Raya, reporter à Paris Match, et merci à vous Stéphane Clark. Je rappelle le titre de votre ouvrage, ça s'appelle Elisabeth II ou l'humour souverain. C'est Albin Michel aux éditions Albin Michel, sorti en 2018. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes. Un témoignage et un hommage, celui de Daniel Cordier. On va l'entendre à l'occasion du tournage d'un téléfilm. Nous l'avions interviewé. Nous voulions ce soir lui rendre un dernier hommage. On a appris sa disparition aujourd'hui à l'âge de 100 ans. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, le retour du 18-20 et notre séquence archive pour terminer. On voulait vous faire partager un témoignage, un hommage même, celui de Daniel Cordier. Daniel Cordier qui est décédé aujourd'hui, l'ancien secrétaire de Jean Moulin, compagnon de la Libération. Il avait 100 ans. Il s'exprimait à l'occasion du tournage d'un téléfilm à Lyon sur sa vie, alors qu'il était secrétaire donc, de Jean Moulin pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un extrait que nous voulions vous faire partager ce soir. Il est au micro de Nicolas Poincaré le 13 décembre 2012.
Alors, bonsoir Daniel Cordier.
Bonsoir.
Vous avez 92 ans, vous avez été en 42 et en 43 le secrétaire de Jean Moulin. Daniel Cordier, vous aviez 22 ans à ce moment-là. C'était quoi ce travail? Parce qu'il était clandestin, forcément vous étiez clandestin avec
nous
lui.
Nous étions clandestins, oui, nous étions clandestins tous les deux. C'est-à-dire qu'on a fait des faux papiers, c'était être clandestin. Et ben, vous savez, c'était le secrétariat clandestin d'un homme qui, peu à peu, a dirigé la résistance. Mais au début, ce n'est pas ça, parce que il y avait 6 mois déjà qu'il était en France, mais il n'avait personne autour de lui. Je veux dire, j'ai retrouvé dans les archives les premiers rapports qu'il envoie à Londres sont écrits autographes. Ils sont pas dactylographiés, et c'est lui-même qui les code, qui les etc., etc. Et alors, au fond, les 6 premiers mois de sa mission, bon, vous savez, il a couru après quelques chefs de la résistance avec Freinet, Dacier, mais il n'avait absolument personne. Freinet était parti à Londres pendant 2 mois, il était revenu au mois de juillet, et enfin, il espérait commencer, c'est-à-dire organiser cette résistance et surtout cette armée secrète et ainsi de suite.
Donc quand vous êtes parachuté, vous avez 22 ans, vous voulez résister, Londres vous envoie en France, vous pensiez à ça, vous pensiez que vous alliez faire un boulot aussi politique, vous n'aviez pas en tête plutôt de vous battre, de faire des attentats, de tuer des Allemands?
Ah mais écoutez, moi c'est tuer du Bosch, c'est faire tout sauter, etc. C'était un peu confus, vous savez, dans ma tête, je me disais, mais bon, je pourrais faire sauter chaud, puis je pourrais tuer des Bosches. Parce que ça, c'était le but de mon engagement depuis le début. Et je vous avoue que, hélas, jusqu'à la fin, je n'en ai tué aucun.
Vous n'avez tué aucun Bosche. En revanche, les Bosches, comme vous dites, ont arrêté Jean Moulin à Caluire à l'été 43. Vous étiez où à ce moment-là?
J'étais à Paris et je l'ai appris. Je l'ai appris un soir dans le métro. Il y avait tous les jours des courriers qui allaient à Lyon. Et un courrier un soir qui m'a dit, voilà, Moulin est arrêté. Enfin, Rex est arrêté, pardon.
Rex est arrêté et Rex va mourir après avoir été torturé par Klaus Barbie pendant une quinzaine de jours. Vous avez toujours été persuadé qu'il a été trahi par René Hardy?
Alors, c'est deux positions. C'est une position personnelle que je vous avoue, mais personne n'est obligé de me croire. Je suis convaincu que celui qui a trahi Jean Moulin, c'est Hardy. Mais, du point de vue de l'histoire, nous avons un seul document de la Gestapo qui a été trouvé à Marseille. C'est le premier rapport de Barbie quand il raconte par le détail comment il a arrêté Hardy, comment Hardy lui a dit qu'il était prêt à travailler avec lui, et comment, petit à petit, Hardy s'est mis à son service, parce que, bon, l'autre disait, si vous ne me livrez pas Jean Moulin, le chef de la résistance, eh bien, vous partez en Allemagne, c'est terminé. Et il s'est trouvé devant ce dilemme, bon, et finalement, il a choisi de livrer Jean Moulin. Et il a amené la Gestapo à Caluire, et la Gestapo est arrivée, et ils ont arrêté Jean Moulin, je crois, 10 minutes après qu'il soit arrivé à Caluire.
Daniel Cordier, après la guerre, pendant une trentaine d'années au moins, vous n'allez plus du tout parler de tout ça. Pourquoi?
Mais parce que je n'avais tué aucun Bosch. Je n'avais pas fait, à mes yeux, je n'avais pas fait la guerre. J'étais parti pour tuer du Bosch, et j'étais très jeune, mais bon. Et je n'avais tué personne. J'avais été le secrétaire, oui, évidemment, du grand patron, qui était un type formidable, qui m'a formé à la peinture.
C'est Jean Moulin qui vous a formé à la peinture ?
Absolument. C'est la première fois que j'entendais parler de la peinture. Il y avait deux personnages en lui. C'est-à-dire qu'il y avait le patron. Et puis, quand le travail était fini, quelquefois c'était un quart d'heure, mais quelquefois c'était deux heures, eh bien, finalement, ça devenait un autre homme qui avait beaucoup d'humour à l'égard de tout le monde, qui était très drôle, qui s'amusait et tout. C'était pas la guerre que j'avais imaginée où on tuait du Bosch. Voilà.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Voilà, c'était Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin, compagnon de la Libération, qui est donc décédé aujourd'hui à l'âge de 100 ans. Le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué qu'un hommage national lui sera prochainement rendu.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h58, dans un instant, Julien Pierce pour le rappel de l'info. Et puis Émilie Mazoyer qui reçoit ce soir...
Je voudrais que tu m'appelles plus souvent.
Gaëtan Roussel, ancien chanteur évidemment de Louise Attaque. C'est à découvrir avec Émilie Mazoyer dans quelques secondes. Merci de votre fidélité, merci à l'équipe du 18-20. Rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Merci de votre fidélité. Que tu sois seul.